Quelqu'un m'a dit que la vieillesse, c'était ne plus avoir de projet. Et je crois que Pierre, tu n'entres pas dans cette description-là. Oui, Jésus est ressuscité. Nous l'avons chanté. Et nous allons maintenant prendre la parole de Dieu pour relire ce passage clé de l'Évangile. Je vous avoue quand même que c'est pas évident pour moi de prêcher sur la résurrection. Il y a deux types de prédications difficiles. C'est des textes de l'Ancien Testament très compliqués, et puis des textes finalement bien connus. Et la résurrection est un texte qu'on connaît bien, c'est un récit qu'on maîtrise sur le bout des doigts. Et la pensée qui m'a habité pour ce message, c'est « mais qu'est-ce que je vais leur dire ?» Finalement, j'ai repris l'évangile de Matthieu, relu le texte de la résurrection. Et cette lecture m'a révélé quelque chose. Ce quelque chose, c'est un piège dans lequel je suis tombé et dans lequel je vais encore certainement tomber. C'est qu'à force de me dire que je connais le passage, je connais l'histoire, c'est bon, ben je ne prends même plus le temps de m'émerveiller du texte biblique et de découvrir ce qu'il a à me dire. Relire le récit de la résurrection m'a fait comprendre, m'a fait réaliser des choses et je me réjouis de vous le partager ce matin. Je vous invite donc à lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, les 15 premiers versets. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux chefs des prêtres tout ce qui leur était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. « Dites que ses disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Fin de notre lecture. Jésus est ressuscité. Voilà la clé de ce passage. Et cette résurrection est même attestée à deux reprises. Tout d'abord par l'ange, et puis par Jésus lui-même qui se montre aux femmes. Oui, Jésus est vraiment ressuscité. Dans ce récit, ce que nous voyons, c'est que nous voyons deux témoignages radicalement différents. Il y a celui des gardes et celui des femmes. La galanterie l'oblige, prenons d'abord le témoignage des femmes. Qu'est-ce qu'elles vivent là devant le tombeau? Alors Matthieu nous donne une description de ce qui s'est passé. Il dit « Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vint rouler la pierre et s'assit dessus. Cet ange avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. » Imaginez un peu cette expérience. C'est extraordinaire, non ? Alors nous, lecteurs du 21e siècle, on se représente la scène avec plein d'effets spéciaux. Hein. Si on devait tourner un film, ça pourrait être une scène sympa. Il y a quelque chose qui claque dans cette scène, un visuel grandiose. Mais cette scène ne vient pas seulement rejoindre les femmes dans le visuel, dans l'aspect grandiose des choses. Ce qu'il se passe ici, à Gethsemane, c'était vendredi, voilà, pardon, ce qui se passe ici devant le tombeau, c'est que cet événement les rejoint au cœur de leur foi. Au cœur de leur foi pétrie de textes de l'Ancien Testament. Chaque élément relaté par Matthieu a quelque chose de bien précis pour elle. Le tremblement de terre. Dans l'Ancien Testament, un tremblement de terre n'était pas anodin. Un tremblement de terre signifiait une intervention divine dans l'histoire. Le dernier tremblement de terre qu'elles avaient vécu était le tremblement de terre vendredi saint, où Jésus est mort à la croix, et où l'Évangile nous dit « des morts sont ressuscités ». Si ça, ce n'est pas une manifestation claire de l'intervention de Dieu. Mais ici, il y a quelque chose d'étonnant. C'est que le tremblement de terre ne permet pas la résurrection de Jésus. Ce tremblement de terre contextualise, il permet l'apparition de l'ange. Chose qui m'a aussi étonné, c'est que lors de la crucifixion, il y avait des centaines de témoins, alors que ce dimanche matin au tombeau, il y a deux femmes, deux gardes. Je me suis demandé pourquoi finalement les événements ne se sont pas passés selon la même logique que le chapitre 27 lors de la crucifixion. Finalement, un tremblement de terre, Jésus ressuscite, on transpose le schéma, c'est clair. C'est mon esprit peut-être un peu cartésien qui me fait poser ces questions-là. Mais pour moi, le tremblement de terre devrait susciter la réflexion. Ici, c'est un ange qui apparaît. Comme s'il y avait besoin d'un intermédiaire. Alors je me suis dit, mais si cet ange est là, c'est qu'il sert à quelque chose. Et l'apparition de cet ange était nécessaire. Oui, l'ange était un intermédiaire nécessaire pour ces femmes. Et Matthieu prend le soin de nous décrire cet ange. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Alors ça m'a intéressé. Cette description n'est pas anodine. Matthieu ne vient pas la chercher nulle part. Cette description, on la retrouve dans le livre de Daniel et en Apocalypse. Et chaque fois qu'elle apparaît, c'est le signe d'une théophanie. Voilà, un terme un peu compliqué. Une théophanie, c'est une apparition de Dieu. Chaque fois que cette description apparaît, il y a une apparition de Dieu. Cet ange-là n'est pas un simple messager. Les signes qui accompagnent sa venue montrent à ces femmes quelque chose de plus profond. Cet ange, c'est un petit peu le canal de communication par excellence que Dieu utilise. J'ai regardé du coup chez le prophète Daniel et dans le livre de l'Apocalypse, ces deux descriptions. Et à chaque fois, autant dans Daniel que dans l'Apocalypse, le message qui suit la venue de cet ange indique quelque chose qui se passe dans le ciel. Et le message ici indique le règne de Christ. Et pour en mesurer la profondeur, je vous lirai quelques versets du prophète Daniel. Daniel 7. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige, et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flamme et ses roues étaient de feu dévorant. Et si je reprends plus loin verset 13, pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Voilà ce que l'ange véhicule comme message pour ces femmes. Voilà pourquoi c'était nécessaire qu'il y ait cet ange. Non seulement il annonçait aux femmes que Jésus était ressuscité, mais il annonçait aussi que le Fils de Dieu a obtenu une victoire totale dans le monde spirituel. Oui, désormais pour ces femmes, le règne de Christ est éternel et universel. Ce Jésus qu'elles ont connu sur terre règne désormais. Et son royaume ne sera jamais détruit. Cet ange a effectivement roulé la pierre du tombeau pour montrer qu'il était vide. Jésus était donc déjà ressuscité avant que la pierre ne soit roulée. Ce n'est pas le tremblement de terre, ce n'est pas l'apparition de l'ange, ce n'est pas la pierre roulée qui ont permis à Jésus de ressusciter. Tous ces signes sont là pour les femmes. Tous ces signes sont là pour ces deux premiers témoins de la résurrection. Alors on comprend qu'elles repartent avec de la crainte. Ce qu'elles viennent de vivre est assez intense. Et cerise sur le gâteau, c'est que sur leur chemin du retour, ces femmes ont le privilège de rencontrer Jésus. Jésus en personne, qui leur rappelle les mêmes paroles que l'ange a données. Oui, après avoir vu le tombeau vide, elle voit le ressuscité, celui qui est la vie. Imaginez un petit peu ce que doivent ressentir ces femmes à ce moment-là. Quel contraste avec ce que les gardes ont vécu. Pour ces deux-là, pas de chance. L'apparition de l'ange ne leur était pas destinée. Eux, ils prirent peur et tombèrent comme morts. Et là, je remarque le génie de la plume de Matthieu. Et je peux le paraphraser comme ça, c'est que alors que les gardes qui étaient vivants, devaient garder un mort, ce sont eux qui deviennent comme des cadavres, alors que le mort est désormais vivant. Il y a un retournement de situation complet. D'une même réalité, de la résurrection de Christ, l'expérience vécue est radicalement différente. Celle des femmes et celle des gardes. Et suite à cet événement, ces deux groupes de témoins ont un message à transmettre. Les femmes ont un message d'espoir et de victoire à transmettre aux disciples. Et c'est là que je vois aussi l'humour de Dieu, c'est que dans la société juive de l'époque, on refusait de reconnaître aux femmes le statut de témoin. Ce qu'une femme avait à dire n'avait aucune valeur juridique. Et Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, nous apprend même que le témoignage de plusieurs femmes n'avait pas de validité. Même si plusieurs femmes s'accordaient à dire quelque chose, n'avait pas de validité. Aux yeux de la société, c'était finalement bel et bien ce témoignage des gardes qui aurait dû faire foi. Les gardes étaient déjà certainement dignes de confiance, et en plus c'était des hommes. Mais les deux témoins idéaux sont aveuglés. Ils passent à côté de ce qui se passe réellement. Et l'humour de Dieu, finalement, ce sont ces femmes dont la parole n'a pas de valeur. Ce sont elles qui vont annoncer la résurrection de Christ. C'est un paradoxe qu'on voit souvent dans le royaume de Dieu. Et en tout cas, le pari a payé. La bonne nouvelle est venue jusqu'à nous. Les gardes, quant à eux, la nouvelle qu'ils avaient annoncée aux prêtres est plutôt celle de leur échec. Ils n'ont pas réussi. Ils ont failli dans leur mission. Et de ces deux témoignages, radicalement différents, il y a un point commun. Ce point commun, c'est que le tombeau est vide. Alors, ce tombeau vide, c'est une réjouissance pour les femmes, pour celles qui ont cru en Jésus, mais c'est un embarras pour les gardes et pour les prêtres qui entendent ce témoignage. Pour eux, il s'agit maintenant d'étouffer l'affaire. Et pour la deuxième fois en peu de temps, les prêtres sont prêts à verser de l'argent pour servir leurs intérêts. Après les 30 pièces d'argent données à Judas pour qu'il livre Jésus, les prêtres sont à nouveau prêts à corrompre les gardes pour qu'ils racontent leur version des faits. Ce que je trouve drôle, drôle et triste à la fois, c'est que Matthieu conclut en disant que ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, Matthieu, ce récit se propage encore 2000 ans après. Pour beaucoup de nos contemporains, la résurrection n'est qu'une fable. Mais pour nous qui croyons, cette parole du Christ est certaine. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et pour conclure, je vous lirai l'apôtre Pierre qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Oui, cette espérance est certaine, car notre Seigneur a vaincu la mort. Amen. »